Les parts actualités.
Les parts actualités, édition du 5 mars 2018. Et au cours de la prochaine demi-heure, il sera sujet de plein de choses, notamment d'accessibilité dans une institution du Milan qui déménage en dehors du Milan. On parlera aussi de programmes de formation d'employés. En studio avec nous, donc, pour la première entrevue, monsieur... Oh, j'ai oublié votre nom, quelle horreur.
Gregory Burton.
J'ai honte de moi, monsieur Burton, et je vous prie de m'excuser. Et tout ça, ça commence dans quelques instants. Alors, tout de suite, quelques nouvelles, de bonnes nouvelles, d'ailleurs, faut-il le dire. Le Journal de Montréal rapporte, c'est le titre, « Logements sociaux, trois nouveaux projets d'habitation verront le jour dans l'Est de Montréal ». Trois nouveaux projets d'habitation destinés aux personnes vulnérables verront le jour dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Montréal a autorisé mercredi dernier la démolition d'un bâtiment commercial sur la rue Sherbrooke-Est qui sera reconstruit pour accueillir 39 unités d'habitation. Le projet sera géré par la Fondation des aveugles du Québec. À quelques rues de là, deux autres bâtiments seront détruits pour faire place à une résidence de 26 logements dédiée à des femmes itinérantes et en difficulté de la Maison Marguerite. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, s'est dite très heureuse de la poursuite de ces projets qui s'inscrivent dans la volonté de son parti d'investir davantage dans les logements sociaux. Situés dans le même arrondissement, l'église Saint-Victor et son presbytère seront aussi démolis en grande partie et reconvertis en projets d'habitation de 76 logements pour des familles et des personnes âgées sans domicile fixe. Ces édifices vacants depuis 2015 ont été désignés mercredi comme communautaires. Une bonne nouvelle avec peut-être un bémol, celle-là dans les pages de la presse. Une première maison Alzheimer à Verdun. Un petit café-bistrot, un parc où la nature est verdoyante, une salle à manger comprenant du mobilier tendance, un grand salon avec une télé à écran plat, un foyer où dansent les flammes et une bibliothèque remplie de livres et de jeux de société. Nous ne sommes pas dans une luxueuse résidence pour retraités, comme on en trouve de plus en plus au Québec, mais plutôt dans la première maison Alzheimer, aménagée à partir des plus récentes recherches en gérontologie réalisées dans le monde. Tout a été fabriqué pour donner l'impression aux résidents qui ont perdu la notion du temps et de l'espace qu'ils vivent en milieu urbain, dans un grand bungalow avec de fausses fenêtres. Le personnel médical ne portera pas l'uniforme habituel, même chose pour le personnel d'entretien. Rien à voir avec les règles strictes en vigueur dans les établissements de santé et les centres hospitaliers de soins de longue durée, les CHSLD. Dans quelques jours, la maison L'Étincelle à Verdun, un projet financé entièrement par le secteur privé, accueillera ses premiers locataires. Pour y habiter, chaque résident devra payer près du double du loyer mensuel exigé dans un CHSLD ou dans une ressource intermédiaire publique-privée. Le concept est avant-gardiste. On veut que nos résidents puissent vivre à leur rythme et prendre leur petit déjeuner à l'heure qui leur convient, explique le responsable du projet, Sébastien Barrette. La maison hébergera une dizaine de pensionnaires qui seront traités aux petits soins dans un environnement personnalisé et maquillé, de façon à leur faire oublier qu'ils vivent dans une résidence spécialisée entre quatre murs. Si vous êtes un adepte des rues du Milan, de ses cafés, de ses institutions culturelles et gastronomiques, vous connaissez sans doute le KGB. Malheureusement, le KGB déménage et c'est ce dont vient nous parler Gregory Burton. Monsieur Burton, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre de la coopérative Le KGB, parce que le KGB, c'est pas une entreprise privée classique.
En fait, moi je faisais partie de l'effort pour établir le coopératif. Ça sera un coopératif des travailleurs. Mm-hmm. Puis finalement, moi, je gérerai la salle de spectacle qui ne continuera plus à la nouvelle destination, la nouvelle location. Donc, moi, je ne ferai plus partie de la coop, mais je faisais partie de l'initiative pour établir la coop.
Ah, c'est triste quand même. Donc, la disparition de la salle de spectacle, ça ne veut quand même pas dire que le KGB va se contenter d'offrir des lunchs comme il le faisait déjà. Et...
Oui, le café restera.
Le café va rester, il va y
pas,
avoir...
Pas encore... dans cette location, mais le café lui-même déménagera.
Oui, ouais, il déménage vers la petite patrie, c'est si, ça. J'ai, bien, c'est si ça. J'ai bien compris. Le café lui-même a quand même une programmation. C'est-à-dire, on parle de conférences, on parle d'ateliers.
On va essayer, oui, d'accueillir des petits événements, peut-être de la poésie, des conférences, des trucs comme ça, puis aussi les exhibitions de l'art sur les murs.
OK. Et qu'est-ce qui vous force comme ça à déménager et à restreindre ce qui était quand même un programme intéressant?
C'était un hausse de loyer, une nouvelle bail qui, finalement, on ne pourrait pas négocier un bail qui était abordable pour nous autres.
Parce que le Myland, il faut le dire, c'est devenu le plateau des années 80 avec
l'a vu à plusieurs endroits parmi des années, oui.
Oui, alors là, les tarifs de location sont devenus carrément prohibitifs.
Presque le double qu'on avait payé avant.
Est-ce que vous connaissez déjà le nouveau site que vous allez occuper?
C'était un site, eux autres... Ils le connaissent. Le coopératif ont choisi ce site parce qu'ils avaient déjà parlé avec la propriétaire, je crois. Puis c'était un site qui allait être... qui allait marcher pour le café. Mm-hmm. Puis il est devenu alloué quand on l'avait besoin, en fait.
Et on est plus dans la petite Italie, donc à partir de ce déménagement-là, qui va avoir lieu quand exactement?
On dirait le première semaine d'avril.
Bon, et ça m'amène à vous parler d'accessibilité, puisque comme vous allez déménager, vous entendez faire en sorte que ce café-là soit accessible aux personnes handicapées.
Oui, par exemple, une des bonnes parties, qu'est-ce qui va de bien avec le déménagement, en fait, est que la location où on est maintenant n'était jamais complètement accessible. On avait une salle de bain qui était demi-accessible, qu'on a essayé, on tentait de faire plus accessible, mais les entrées n'étaient pas complètement accessibles. Donc, comme on a du temps pour des rénovations à cet nouvel endroit, ça nous tente de faire une rampe à l'entrée pour les fauteuils roulants, puis là, on est en train de construire une salle de bain accessible.
Et pour les travailleurs eux-mêmes, est-ce que on pourrait envisager, par exemple, que la coopérative emploie des travailleurs handicapés et soit adaptée? Puis là, ça peut être difficile, par exemple, en cuisine ou...
Comme coopérative, on aura... on donnera une voix aux travailleurs pour qu'ils puissent se gérer entre eux et demander ou discuter entre eux qu'est-ce qu'ils ont besoin comme dans le sens accessibilité pour les travailleurs. Je sais pas si c'est assez clair, mais...
Non, effectivement, mais parce qu'on s'imagine souvent, on a souvent une vision assez biaisée de ce qu'est une coopérative de travailleurs. Les gens s'imaginent que c'est un milieu complètement ouvert. Ça reste une entreprise fermée.
C'est une entreprise, oui, qui est gérée privée. Par... en anglais, c'est sur Board of Directors. Mais les travailleurs auront la capacité de donner leur voix à la gérance de l'endroit et l'accessibilité va certainement faire partie de ça pour les travailleurs.
Le déménagement implique aussi des coûts majeurs d'adaptation, de déménagement bien sûr, de décoration, et tutti quanti. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider et comment?
Il y a un site de sociofinancement. Sur GoFundMe, Sauver le KGB. Et vous pouvez voir le lien sur notre site web, lekgb.ca.
OK. Alors, on peut inviter tout le monde qui se sent concerné, parce qu'il y a quand même une institution culturelle du Myland, à vous appuyer et à participer. Monsieur Burton, c'est déjà tout pour cette entrevue. Je vous remercie infiniment d'avoir été là. Je vous souhaite bonne chance dans votre déménagement et peut-être éventuellement le local d'à côté libre pour ouvrir une salle et reprendre un programme de spectacle.
Super. Merci beaucoup.
Une nouvelle maison de répit à Trois-Rivières. L'organisme L'Évasion, qui propose des services de gardiennage et d'accalmie pour les personnes handicapées, a procédé à l'inauguration d'une deuxième maison de répit à Trois-Rivières. Effectivement, la maison Louise Beaurivage permettra d'ajouter 5 places de répit de 24 heures ou plus pour les enfants âgés entre 0 et 16 ans. L'ouverture officielle de cette dernière est prévue à compter du 26 mars prochain. L'ouverture de cette seconde maison se veut une façon de répondre à la volonté du CIUSSS-MCQ d'augmenter le nombre d'usagers et le nombre d'heures. Ainsi, le conseil d'administration de l'Évasion a décidé de se porter acquéreur d'une deuxième demeure. Située au 570 rue Alfred-Cambrai, dans le secteur Cap de la Madeleine, elle s'ajoutera donc à l'offre de 12 places de la résidence Armand-Dionne. Ces 5 nouvelles places seront dédiées aux familles ayant un ou des enfants présentant une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme ou une déficience physique sans problème de mobilité important. Le conseil d'administration a également invité la population à une journée porte ouverte le dimanche 18 mars prochain de 13h30 à 16h. Ces services visent à éviter l'épuisement des membres de la famille de la personne ayant des incapacités et donc favoriser son maintien à domicile. Pour Caroline Rousseau, dont le fils fréquente l'Évasion depuis maintenant 5 ans, il s'agit d'un service essentiel. Pour de plus amples informations, les personnes intéressées peuvent communiquer avec Danny Junot au 819-691-2471. Et Dieu sait que c'est important d'avoir une pause parfois. Connaissez-vous la dysphasie? La dysphasie, c'est de la difficulté à établir un lien entre des pensées et des mots qu'on prononce ou qu'on entend. Alors, on devinera toute l'ampleur du projet d'affaires de Vincent Godin à la lecture de ce texte qui s'intitule « Je veux devenir un ambassadeur ». L'idée de Vincent Godin est porteuse d'espoir. En effet, ce jeune homme de Trois-Rivières, atteint de dysphasie, rêve de devenir conférencier et d'en faire son métier. Il espère que d'autres gens pourront s'inspirer de son parcours. Vincent Godin a tout récemment réalisé quelques défis à la nage pour faire connaître ce trouble du langage qu'est la dysphasie. Son but ultime était de faire en sorte que les jeunes dysphasiques aient plus de soutien dans leur cheminement. Maintenant, il aspire à devenir conférencier. Je veux transmettre mon expérience de vie et j'ai un bon bagage à raconter. Je veux inspirer les jeunes dans les écoles, dans les entreprises, dans les milieux communautaires ou encore défavorisés. Je veux expliquer aux minorités visibles, aux dysphasiques ou aux jeunes aux prises avec des difficultés ou un handicap autre qu'il est possible de réussir, d'intégrer le marché du travail et de se réaliser. Le trifluvien, a indiqué que le sport, ses parents et sa famille ont joué un grand rôle dans sa vie. Il a déjà livré quelques conférences à l'Université du Québec à Trois-Rivières, l'UQTR, au Cégep du Vieux-Montréal et aux Îles-de-la-Madeleine. Grâce à l'initiative Jeunes volontaires, 6 jeunes de la région à la fibre entrepreneuriale, dont Vincent Godin, se sont vus offrir la possibilité de développer et de mettre en œuvre leurs projets qu'ils ont eux-mêmes imaginés. Alors, on l'imagine, pour un dysphasique, la carrière de conférencier, c'est un beau défi. Alors, tout de suite, on rejoint Mme Laurie Morel, qui est coordonnatrice à la formation pour le Conseil québécois des entreprises adaptées. Mme Morel, bonjour.
Bonjour, M. Brodeur.
Vous allez bien?
Je vais très bien, merci.
Parlez-nous de ce qu'est le Conseil québécois des entreprises adaptées.
Le Conseil québécois des entreprises adaptées est une association qui regroupe 40 entreprises adaptées, mm-hmm. donc 40 membres. Et parmi les services que nous offrons, on offre des formations. Mm-hmm. Donc, une quarantaine de formations.
Et quand vous me dites qu'il y a 40 membres, c'est 40 membres fermés ou un entrepreneur pourra encore se joindre et adhérer au Conseil?
Bien, en fait, il y a 42 entreprises adaptées. Nos membres, okay. c'est les entreprises adaptées. Il y en a 42 mm-hmm. au Québec. Et il y en a 40 qui font partie de nos membres. Les deux autres, je crois que c'est parce que c'est des tout petites entreprises adaptées.
OK. Vous formez donc, vous offrez de la formation à ces entreprises-là. De quoi on parle quand on parle de formation pour les entreprises?
On parle de tout type de formation qu'une entreprise régulière peut avoir besoin. Là, on mm-hmm. aborde des thèmes comme la gestion, les ressources humaines, la santé et sécurité, mais on aborde aussi des thèmes plus spécifiques comme la supervision et la supervision adaptée, donc la supervision avec un volet intervention, quand on connaît quels sont la clientèle, les travailleurs des entreprises adaptées, c'est des personnes qui ont des limitations physiques, mentales ou intellectuelles et même autres, là, limitations. Et donc, ça nécessite une certaine connaissance au niveau d'intervention pour le personnel de supervision.
Puis par adaptation, on entend plein de choses, là, autant le handicap physique que le handicap intellectuel. Je pense par exemple à une intervention auprès de personnes souffrant de troubles du spectre de l'autisme. On ne communique pas de la même manière avec ces travailleurs-là, par exemple, qu'avec un autre.
Exactement. Donc, c'est une de nos formations, notre gamme de formations pour lequel on a le plus de succès, c'est nos formations supervisées avec brio. Donc, comme vous venez de parler, on a une formation qui s'adresse aux superviseurs qui ont dans leur équipe de gestion, leur équipe de travail, des personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme. Donc, ça s'appelle supervisées avec brio, les personnes présentant un trouble du spectre de l'autisme. Mais on a cette même formation-là pour les troubles mentaux, pour la déficience intellectuelle. On a celle qui s'appelle « Mieux communiquer avec les personnes sourdes ». Puis, on a un petit nouveau qui s'en vient aussi au niveau des troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité.
J'ai presque un peu peur de vous poser la question, là, mais est-ce qu'il y a, et passez-moi l'expression, des trends en la matière de formation adaptée actuellement?
Non.
Non, c'est toujours à peu près les mêmes demandes?
En fait, c'est ces formations-là. On vise beaucoup le personnel de supervision. Donc, on cherche à les outiller, même s'ils ne sont pas au courant habituellement en entreprise adaptée de quelle est la situation du travailleur, à être capable de reconnaître certains éléments, puis pouvoir justement poser les limites de leur rôle à eux, mais aussi qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent améliorer dans leur gestion pour rendre ces personnes-là plus fonctionnelles, mais aussi bien en emploi, évidemment.
Le Québec, on le sait, se dirige vers une pénurie de main-d'œuvre. On aura bientôt, j'ose pas le dire de cette manière-là, mais pas vraiment le choix de s'attacher à conserver des employés souffrant d'un handicap, alors qu'auparavant, on pratiquait facilement la discrimination en disant on peut les remplacer aisément, ce qui est très cruel, là, j'en conviens, mais ça se faisait.
Oui.
Dans cette perspective-là, ça devient particulièrement important. Et vous espérez beaucoup du développement de la formation?
Oui, bien, la formation a un rôle majeur. Ça va être la formation auprès des travailleurs en entreprise adaptée qui va viser le développement de l'employabilité puis le maintien, puis même dans certains cas, évidemment, le saut vers un emploi régulier. On voit beaucoup les commissions scolaires présentes de plus en plus dans les entreprises adaptées qui vont venir jouer ce rôle-là de développement des compétences et développement de l'employabilité, des habiletés sociales dans le but justement de les amener à développer là, leur employabilité puis peut-être même à combler des emplois dans des entreprises là, régulières qui n'ont pas cet effort d'adaptation-là comme les entreprises adaptées.
Donc, qui peut s'inscrire à ces formations-là?
Bien, principalement les entreprises adaptées, évidemment, parce que notre but premier, c'est de répondre à leurs besoins, mais nos formations, on les conscient, peuvent répondre à d'autres types d'entreprises, d'autres types de besoins. Puis, on invite tout le monde à consulter notre offre de formation, puis à s'y inscrire et aussi aux besoins. Nos formations peuvent être adaptées à des contextes un peu différents des entreprises adaptées.
Et ces formations-là, ça prend quelle forme? Est-ce qu'il faut se déplacer pour aller les suivre vers Montréal ou Québec? Est-ce qu'il faut prévoir beaucoup de temps?
Bien, nos formations sont d'une durée en moyenne de 3 heures, puis sont tous ou presque accessibles en classe virtuelle, offertes en classe virtuelle. Donc, c'est un petit peu partout où on a accès à Internet. En fait, c'est peut-être ça qu'on pourrait dire la grande tendance en formation présentement, c'est les classes virtuelles de notre côté. Et par contre, au besoin, on a le plaisir de les offrir en entreprise aussi.
Pour avoir des idées de profil, par exemple, si dans votre entreprise un employé souffre ou devient atteint d'un handicap, est-ce que il y a une forme de sensibilisation à aller chercher? Moi, je pense, par exemple, voyez-vous, après un accident du travail, un salarié qui deviendrait handicapé ou est-ce que ça arrive relativement souvent que des entreprises vous contactent pour apprendre à gérer ces cas-là?
Ah, c'est curieux. C'est la première fois qu'on parle de ce besoin-là. Non. Bien, en fait, de la part de nos membres, non. Nos clients sont déjà...
très sensibilisés, oui.
Ben oui, leur rôle, c'est vraiment de s'adapter hein, pour être en mesure de faire travailler les gens qui leur sont présentés. Donc, non, on n'a pas eu ce besoin-là. Je crois que c'est quelque chose qui existe au niveau de Sphère Québec, si je ne me trompe pas.
OK. En terminant, suivre une formation auprès du conseil, ça peut coûter combien?
C'est très peu cher, autour d'une centaine de dollars.
OK. Toujours en raison, effectivement, des classes virtuelles qui font baisser les prix.
Exactement. Puis on cherche à rester accessible.
Eh bien, Madame Morel, je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous. Si on veut vous contacter, on le fait comment?
Vous pouvez me rejoindre au CQA, 418-872-7899, au poste 226, ou par courriel au l.morel@cqa.ca. Puis évidemment, sur notre site Internet, toutes les informations sur nos formations s'y retrouvent et on peut même s'y inscrire en ligne.
Eh bien, Madame Morel, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une bonne journée.
Bien, à vous aussi. Le plaisir était pour moi.
Au revoir.
Au revoir.
À la Berlinale, Gus Van Sant filme la rédemption d'un dessinateur alcoolique. 3 ans après son dernier film reçu de manière désastreuse, l'Américain Gus Van Sant a présenté mardi dernier à la Berlinale son dernier opus « Ne t'inquiète pas, il n'ira pas loin à pied » avec Joaquin Phoenix, un biopic sans grand éclat sur la rédemption d'un dessinateur alcoolique et tétraplégique. Connu pour jongler entre films d'auteur, Éléphant, Palme d'or 2003, et d'autres plus grands publics de commande comme Will Hunting, le réalisateur s'est penché sur la biographie du dessinateur John Callahan, découverte il y a 20 ans grâce à Robin Williams qui avait envisagé un temps de l'interpréter. Alcoolique depuis l'adolescence, John Callahan sera paralysé à la suite d'un accident de voiture à l'âge de 21 ans qui accentuera ses problèmes de consommation. Il finira par se lancer dans le dessin humoristique, tendance humour noir, et à s'en sortir progressivement. Décédé en 2010, l'homme aux cheveux roux est une figure de Portland, en Oregon, la ville de Gus Van Sant. C'est quelqu'un qui a toujours joué avec les limites, a souligné le cinéaste à Berlin. Les cartoons, très politiquement incorrects du dessinateur, font partie intégrante de son film et permettent de mieux saisir sa personnalité. Poignant sans être bouleversant, le film se concentre sur l'accident de John Callahan et sa rédemption. Il consacre une large place aux réunions d'alcooliques anonymes et thérapies de groupe entreprises par le personnage. L'occasion de revenir sur une enfance marquée par l'abandon et le mal-être. Radio-Canada rapportait quelque chose d'assez déprimant, vous allez le voir, le syndrome de résignation qui affecte des enfants migrants. C'est un mal étrange, présent surtout en Suède. Il frappe les enfants des demandeurs d'asile, principalement ceux venus des pays de l'ex-URSS et de l'ancienne Yougoslavie. On l'appelle le syndrome de résignation. L'enfant est dans un état semi-comateux, une sorte de catatonie. Il a les yeux fermés, les dents serrées, il ne bouge pas. Ses muscles n'ont aucun tonus et il doit être nourri à l'aide d'une sonde gastrique. Cet état peut durer jusqu'à 3 ans dans certains cas. On a commencé à diagnostiquer le syndrome en Suède à la fin des années 90. Entre 2003 et 2005, plus de 400 enfants de migrants en ont été frappés. Aujourd'hui encore, on diagnostique le syndrome chez plusieurs dizaines d'enfants chaque année. À 3 heures de route au nord de la capitale suédoise, Stockholm, Radio-Canada est allé voir l'une de ces familles de demandeurs d'asile, un couple d'Arméniens originaires de Moscou, avec 3 enfants. Les deux plus vieux, Kostan, 18 ans, et Milena, 13 ans, souffrent du syndrome de résignation. Couchés côte à côte dans une chambre vide aux murs tristes, le frère et la sœur donnent l'impression d'adolescents tout ce qu'il y a de plus normal, juste endormis. Pourtant, ils sont couchés là depuis 2 ans et demi pour Kostan et presque 2 ans pour sa sœur. Elisabeth Hultkranz, une docteure qui consacre aujourd'hui tout son temps à soigner bénévolement une cinquantaine de ces jeunes, les a examinés devant nous. C'est un syndrome de dissociation. Le cerveau se dissocie du corps. Elisabeth Hultkranz ajoute que ces enfants appartiennent pratiquement tous à des minorités ethniques, souvent persécutées dans leur pays d'origine. Google développe un algorithme capable de diagnostiquer les maladies de l'œil. Des scientifiques de Google ont développé, après 2 ans de recherche, un algorithme capable de détecter des maladies de l'œil. L'analyse effectuée par cette intelligence artificielle est aussi fiable que celui d'un ophtalmologue, selon les scientifiques. Annoncé en juillet 2016, le partenariat avec le NHS, le système de santé du Royaume-Uni, et Moorfields Eye Hospital de Londres, a donné un résultat positif. Le projet de recherche visait le développement d'une intelligence artificielle susceptible de détecter des maladies oculaires. Selon un article publié par Google dans le Journal of American Medical Association, le JAMA, l'algorithme d'apprentissage profond, Deep Learning, qu'ils ont mis en place peut diagnostiquer la rétinopathie diabétique à partir des images de rétine. L'algorithme a été étoffé de milliers de scanners de rétine en 3D anonymes. Ces scanners, fournis par le Moorfields Eye Hospital, avaient été jugés avec précision par des médecins en fonction des symptômes de maladie qu'on pouvait y trouver. À l'aide de ces millions de pixels d'informations, l'algorithme peut repérer plus sensiblement et plus précisément des choses que la médecine ne peut détecter actuellement. 3 importantes maladies de l'œil sont discernables par cette intelligence artificielle, le glaucome, la dégénérescence maculaire liée à l'âge et la rétinopathie diabétique. Elle devra pallier l'insuffisance d'ophtalmologistes qu'elle améliore la qualité des diagnostics. C'est déjà tout pour cette édition des Paractualités. Je vous donne rendez-vous demain alors que je remplacerai une fois de plus Hélène Denis. Je remercie Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde. Au revoir.